se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC.
Bon dimanche à tous, c'est la matinale week-end d'RMC.
Il est 8h. Un tout dernier journal, Stéphane Jeunesse, bonjour.
Bonjour à tous, guérilla rurale hier à Sainte-Soline contre le projet de méga bassine, 5 personnes en urgence absolue ce matin. Le gouvernement inflexible, il maintient sa réforme des retraites. Édouard Philippe, lui, met en garde l'exécutif. Et puis du rugby, le choc ce soir, le derby francilien, Stade Français, Racing 92 en clôture de la 21e journée du top 14.
Les forces de l'ordre accusées de violence criminelle par les manifestants après les affrontements de Sainte-Soline hier. Justement, la porte-parole de la gendarmerie leur réponse ce matin. Elle est mon invitée à 8h10.
Et puis juste après, votre story sport avec un grand nom de la natation, Léon Marchand.
La matinale week-end.
C'était la crainte des autorités et c'est ce qui s'est passé. Des violences entre manifestants et forces de l'ordre à Sainte-Soline hier.
5 personnes en urgence absolue ce matin. 3 manifestants, 2 gendarmes, plusieurs milliers de personnes qui étaient réunies sur ce site des Deux-Sèvres pour lutter contre le projet de méga-bassine. Léna Marjac, vous êtes sur place pour RMC et vous avez assisté à ces affrontements, Léna.
Oui, c'était un face-à-face inévitable. L'objectif des 3 cortèges de milliers de manifestants, aller jusqu'à la méga-bassine, lieu gardé tel une forteresse par les forces de l'ordre, 3200 policiers et gendarmes au milieu de champs. Alors une fois sur place, les affrontements débutent rapidement, tirs de mortiers, d'artifice, de cocktails Molotov par les manifestants. En réponse, 4000 grenades de désencerclement, de gaz lacrymogène et utilisation de LBD par les forces de l'ordre. Des fumées partout, difficile de voir précisément ce qu'il se passe au plus proche de la méga bassine, mais rapidement des blessés affluent. J'aperçois certains manifestants allongés par terre, inconscients, dents cassées, tête en sang. Et après 1h30 d'affrontement, la tension retombe. Ils quittent les lieux dans le calme. Beaucoup de militants sont éprouvés, choqués par la violence de ces heurts, mais ils l'assurent, leur détermination reste intacte.
Léna Marjac, envoyée spéciale de RMC à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres.
La contestation aussi hier contre la réforme des retraites, et c'était plus calme.
Manifestation spontanée et sporadique encore hier soir dans plusieurs villes du pays après celles organisées dans l'après-midi. Et les rassemblements le week-end, c'est d'ailleurs l'occasion parfaite pour se rassembler, donc notamment quand on veut faire grève, commence à faire mal au porte-monnaie en semaine. C'est ce que vous avez constaté à Orléans, en AUO.
À 45 ans, Loïc, employé dans la logistique, se dit déjà cassé de partout. Alors pour lui, la retraite à 64 ans, c'est non. Et en gagnant à peine plus que le SMIC, il n'a pas les moyens de faire grève.
Une journée perdue, ça devient très compliqué. J'ai quand même un crédit d'appart à payer.
Plus loin dans le cortège, François, préparateur de commandes, est lui aussi un habitué des défilés du week-end.
Un jour de grève, c'est pas possible.
Surtout avec l'inflation.
Quand on fait les courses, on est 6 à la maison, donc je vous laisse imaginer. On était à 600. Là, on dépasse les 1 000 euros par mois. Moi, rien que pour le budget nourriture.
Infirmière en psychiatrie à mi-temps, Sylvie l'avoue, impossible de répondre présente à tous les appels à la grève.
10 jours de grève, c'est un tiers du mois quand même. Les factures, elles diminuent pas. Hein. Donc, non, on peut pas.
Et c'est justement parce que la grève coûte cher que les syndicats craignent que le mouvement s'essouffle. D'où ce rassemblement organisé un week-end, explique Pascal Sudre, secrétaire de la CGT Loiret.
Celles et ceux qui ont fait peut-être une pause à la dernière mobilisation en semaine, qui puissent aussi revenir le samedi, parce qu'ils sont toujours plus que motivés, déterminés à poursuivre le mouvement.
Et dans le cortège, en effet, tous se disent prêts à défiler jusqu'au retrait de la réforme des retraites.
Le retrait de la réforme, ce n'est pas vraiment l'ambition du gouvernement. Olivier Véran, le porte-parole de l'exécutif, qui réaffirme ce matin dans les colonnes du journal du dimanche qu'il n'y aurait pas d'accord avec les forces syndicales sur le recul de l'âge du départ à la retraite à 64 ans.
Et pourtant, Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, n'est pas de cet avis.
Il appelle l'exécutif à écouter les manifestants. Édouard Philippe qui réunissait ses troupes hier pour le premier congrès de sa formation Horizon.
Beaucoup de nos concitoyens qui sont opposés à cette réforme ne sont pas des casseurs, ne sont pas des violents. Ce sont nos concitoyens qui nous disent « Attention, j'ai le sentiment que vous oubliez ou que vous ne voyez pas ça. Vous êtes en train de nous retirer un droit. » Et qu'est-ce que je retiens de tout ça? Je ne suis pas sûr, mesdames et messieurs, qu'on ne parlera plus jamais des retraites en France. Et je pense que si un jour on doit en reparler, il faudra garder à l'esprit l'idée que la bonne approche sera peut-être non pas de donner le sentiment d'enlever un droit, mais la possibilité de donner une liberté nouvelle.
Et en marge de cette actualité autour de la réforme des retraites et de sa contestation, le parquet de Paris ouvre une enquête judiciaire contre la Brave M. Enquête après la diffusion par le média en ligne Loopsider d'un enregistrement où l'on entend des policiers de cette brigade motorisée menacer et insulter des manifestants lors de rassemblements contre la réforme. Enquête également qui se poursuit à Bordeaux après le début d'incendie de la mairie. C'était jeudi soir. Un incendiaire a été mis en examen hier.
Direction les États-Unis à présent, où au moins 25 personnes sont mortes après le passage de tornades la nuit dernière.
C'est l'état du Mississippi qui a été touché. Le bilan qui pourrait d'ailleurs s'aggraver puisque les dégâts sont absolument dévastateurs, Margot Boult.
Des maisons en morceaux, des voitures retournées, des arbres arrachés, jonchant les rues. La tempête a complètement rasé la ville de Silver City où habite Christine.
Ma mère, mon père et ma grand-mère étaient dans le couloir de cette maison. Le verre des fenêtres a été projeté dans le couloir et les a tous éclaboussés. Ils se sont protégés avec une porte qu'ils ont tenue devant eux. Ils s'en sont sortis vivants, c'est grâce à Dieu, c'est certain, parce qu'autour, tout le reste a disparu.
D'après les médias locaux, la tornade de plus d'un kilomètre de diamètre se déplaçait à près de 80 km/h. Un bruit assourdissant qui a réveillé les habitants en plein milieu de la nuit.
On s'est tous mis au centre de la maison. La tornade est passée juste à côté de la maison, c'est sûr. Parce qu'au moment de se rassembler, on a entendu un gros boom. On n'a plus rien entendu ensuite pendant un moment. Alors on est sortis. Une dizaine d'arbres avaient été arrachés dans notre jardin.
Hier soir, les équipes de secours continuaient leurs recherches pour retrouver des survivants.
RMC 8h06, les sports Stéphane, avec ce gros coup hier de La Rochelle, 21e journée de top 14.
Les Rochelais qui ont surclassé Bordeaux, Toulouse s'est incliné à Castres, le Loup qui recevait Toulon n'a pas réussi à s'imposer. Ce soir, c'est le derby francilien, le Stade français qui reçoit le Racing 92. Rencontre sur fond, évidemment, de rivalité, avec de multiples enjeux, Clément Brossard.
Oui, la claque infligée par le Stade français au Racing au match aller 48-10 avait fait mal au ciel et blanc. Elle avait même permis aux Parisiens de doubler son rival au classement. Ce soir, le deuxième ligne Romain Briat s'attend à voir des voisins revanchards.
Je crois que ça a été une grosse désillusion pour eux au match aller. Tout le monde parle de revanche. Nous, on n'oublie pas les quatre gros revers de la saison dernière. Je les ai toujours en travers. Ça reste un match à part par rapport aux autres. C'est un derby. On fait abstraction de tout ça et on sait qu'on aura un grand rendez-vous dimanche soir.
Un rendez-vous qui doit servir d'électrochoc à des Racingmen battus trois fois sur ces quatre derniers matchs et hors des places qualificative au play-off. L'entraîneur francilien Didier Cazadei espère un déclic.
Si aujourd'hui t'as pas un sentiment de revanche après l'humiliation qu'on a subie la veille du jour de Noël, voilà. Si on a envie de gagner un match plus que les autres, c'est quand même celui-là. On a envie d'être les meilleurs de Paris, quoi.
En cas de succès, le Racing 92 reviendrait à 4 points du Stade français à 9 journées de la fin du championnat. De quoi redistribuer les cartes pour les qualifications en phase finale.
Stade français Racing 92 qu'on envoie 21h05 à vivre, évidemment, en direct sur RMC.
Évidemment, et du cyclisme aujourd'hui avec la troisième des 5 classiques de la semaine sainte du cyclisme belge.
Avant le Tour des Flandres la semaine prochaine, un peu comme la fête de Pâques du vélo belge, le Grand Est aujourd'hui, Gand-Wevelgem, 260 km sur les routes flandriennes. Une course impressionnante pour Julien Jordi, directeur sportif de l'équipe française AG2R Citroën.
Qu'on voit des Van Der Poel, les Wout van Aert, des Pogacar, tous ces gros clients, Julien Alaphilippe, Pedersen, tous ces grands noms du cyclisme qui se donnent rendez-vous tous les trois jours pour batailler. Donc voilà, donc cette semaine elle est particulière. Là honnêtement, je suis vraiment impressionné chaque année par cet enthousiasme sur le bord des routes, cette folie et le nombre de spectateurs.
Julien Jordi au micro RMC d'Arnaud Souk.
Merci beaucoup Stéphane Jeunesse. Allez, on va se détendre un peu parce qu'il y aura beaucoup d'émotions sportives aujourd'hui, vous l'aurez compris, à vivre sur RMC. On va vous proposer un petit massage à 8h08. Oui, c'est notre cadeau du jour, Marguerite.
C'est l'heure de jouer avec ce cadeau qu'on vous offre, un séjour de 2 jours pour 2 personnes dans une Thalasso Valdis Resort. Vous allez prendre le temps de penser à vous. Il y aura des soins Thalasso, des massages, je sais, ça fait rêver. Et c'est pour vous ce matin. Et il est temps de jouer là tout de suite. Hein.
Pour vous inscrire, rien de plus simple. Vous composez le 32-16, la touche 4, ou vous envoyez le mot matin par SMS au 7-32-16. Matin par SMS au 7-32-16. Vous avez 10 minutes tout pile à partir de maintenant.
Bonne chance à tous.
À suivre dans la matinale week-end.
Au lendemain de scènes de chaos lors des manifestations contre les méga-bassines à Sainte-Soline, une question, est-ce qu'on aurait pu éviter ce déferlement de violence, ces blessés, 5 en urgence absolue? Les violences étaient annoncées d'ailleurs. Bonjour colonel Marie-Laure Pezon.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole de la gendarmerie, vous allez nous expliquer en direct sur RMC et vous aussi qui nous écoutez, vous réagissez au 32-16. À tout de suite.
RMC 6h-9h, la matinale week-end.
Marguerite Dumont, Mathieu Rouault.
Excellent réveil à l'écoute d'RMC, réglez bien vos montres ce matin. Il est 8h, oui, 8h et 11 minutes. Notre invité au cœur de l'actualité.
RMC, la matinale week-end, le témoin RMC.
Au sujet de ce déferlement de violence, comment a-t-il pu se produire hier dans les Deux-Sèvres? Nous recevons la colonelle Marie-Laure Pezon, porte-parole de la gendarmerie. Avec vous, Marguerite.
Bonjour, Marie-Laure Pezon.
Bonjour.
Des dizaines de blessés, dont 5 en urgence absolue hier lors des manifestations anti-bassines, 3 côtés manifestants, 2 dans vos rangs, 2 gendarmes hospitalisés. Comment vont-ils ce matin?
Alors, nos deux gendarmes hospitalisés sont effectivement encore avec des examens. Donc, leur état n'est pas encore complètement stabilisé et connu. Et au-delà de ces deux gendarmes, on a aussi beaucoup de gendarmes, au total 28 gendarmes qui ont été blessés, qui ne sont pas forcément hospitalisés, mais qui ont subi quelques dommages.
Et il y a aussi des manifestants donc, oui, qui ont été blessés, hein, une vingtaine de manifestants. Le bilan est lourd. Sur les images, on voit des scènes de chaos, on peut le dire. Il y avait 1000 activistes radicaux venus en découdre très clairement pour 3000 policiers et gendarmes mobilisés. Un gros dispositif de sécurité. Pourquoi est-ce que vous avez été débordés?
Alors, nous avons eu 3200 gendarmes engagés hier sur une manifestation. L'objectif était de protéger les personnes et les biens qui étaient présents sur place. Donc les gendarmes ont rempli leur mission. Moi, je tiens à souligner leur engagement et leur résilience face à cette violence.
Ils ont rempli leur mission, mais ça s'est quand même très mal passé. C'est des scènes de violence qu'on voit rarement.
Des scènes de violence qui sont illégitimes. Donc on a eu 1000 activistes qui sont arrivés avec l'objectif clair d'en découdre. Ils se sont préparés en avance. Quand vous voyez la marche donc qui a lieu entre le point de départ des activistes et la zone interdite à la manifestation, vous avez 7 kilomètres où vous voyez quand même des personnes radicalisées avec des équipements, des masques, etc. Donc avec cette intention d'aller à l'affrontement.
Et ça, on ne pouvait pas l'anticiper parce qu'on savait qu'il y aurait des violences. On avait l'impression que c'était presque écrit à l'avance. On ne pouvait pas agir en amont.
Alors, on savait effectivement que des violences avaient lieu. C'est pour ça qu'un gros dispositif de gendarmerie a été mis en place, qu'on avait 3200 gendarmes qui étaient prêts à se réorganiser.
Mais pour quel résultat?
En fonction, pour le résultat d'avoir protégé la zone, d'avoir fait respecter l'état de droit, puisqu'on avait une manifestation qui était interdite. Donc les gendarmes qui étaient sur place, on le voit tout le long des images, on a tous vu les mêmes images, les gendarmes tiennent bien la zone, interdisent l'accès aux réserves de substitution, à la zone qui était interdite à la manifestation.
Justement, je vais vous faire écouter une manifestante du collectif Bassine Non Merci, elle s'appelle Adeline, et justement, elle s'exprime au sujet de ces forces de l'ordre qui étaient autour des bassines.
Les gens sont très choqués, n'ont jamais vu une telle violence comme ça. Alors ça ne décourage pas, je pense que ça fait monter encore plus la colère. On a eu plus de 3000 forces de l'ordre qui étaient là pour protéger un cratère vide, donc pour protéger rien.
Est-ce qu'il faut remettre en cause la stratégie de départ? Est-ce qu'il, finalement, il n'y avait pas trop de policiers? Est-ce que c'est pas ça qui a mis de l'huile sur le feu?
On est dans un état de droit. Les gendarmes et les policiers sont là pour faire respecter les arrêtés qui ont été pris. On n'est pas sur un débat d'idées. Nous, on est sur quelles sont les règles qu'on doit faire respecter. On a aussi justement, on savait qu'il y aurait des violences. Donc c'est pour ça qu'on a mis un gros dispositif. Toutes les personnes, tous les gendarmes et les policiers n'étaient pas déployés. On avait des réserves aussi, puisque l'objectif est de pouvoir se réarticuler en fonction de l'action des personnes qui manifestent de manière illégale, comme je voulais le rappeler.
Et vous l'avez dit, la manifestation était interdite. Est-ce que c'était une bonne idée de l'interdire?
Je n'ai pas à me prononcer sur les arrêtés qui sont pris. Nous, on fait respecter ces arrêtés.
Mais je reviens quand même sur cette stratégie de maintien de l'ordre, parce que finalement, vous en êtes aussi, vous, victime. Pourquoi on arrive à de tels affrontements avec des blessés dans les deux camps, hein, côté manifestants et côté gendarmes?
Alors, comme vous le dites, on a une stratégie dans le maintien de l'ordre. La stratégie est d'utiliser la force en fonction de l'attitude des manifestants. Là, on était face à des manifestants radicalisés. Mmh. On a un emploi de la force qui va être gradué.
Il était disproportionné ou pas ?
Il était
tout
gradué.
À fait légitime et proportionné par rapport à...
Il était légitime et proportionné puisqu'il répondait à une attaque. N'oublions alors, pas que les violences
nous
étaient
décrire
quand même
justement
chez les manifestants.
Pourquoi il était légitime et proportionné ? Qu'on comprenne bien.
Alors, quand on est face à des actions violentes, on va utiliser, on a tout un arsenal qui va nous permettre de graduer notre force, notre réponse. Vous avez vu comme moi que la violence était quand même plutôt du côté des manifestants, avec des fusées, des cocktails Molotov, des pierres qui ont été montrées dans les images.
Et de votre côté, 4000 grenades qui ont été lancées.
Alors les grenades sont des grenades lacrymogènes. Donc l'objectif, on parlait de la doctrine du maintien de l'ordre, c'est de maintenir à distance les manifestants pour éviter le contact. Donc l'utilisation de grenades lacrymogènes permet ce maintien à distance. C'est pour ça qu'il y a une utilisation de ces grenades-là pour éviter le contact. On a des manifestants qui, eux, s'étaient équipés pour aller au contact, qui ont détruit des véhicules de gendarmerie. Donc là, on a une violence illégitime qui n'est pas de notre côté.
Des manifestants et des élus comme la patronne des Verts, hein, Marine Tondelier, vous accusent d'avoir donc tiré ces grenades sur des blessés et vous accuse carrément de violence criminelle. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Ça vous choque ?
Alors, ce qui m'étonne, c'est qu'on nous utilise ces termes-là. On a quand même des gendarmes qui ont été visés, ciblés. On a des gendarmes en urgence absolue. On a des images qui sont très parlantes sur les actions violentes qui ont été commises à l'encontre des forces de l'ordre. Je sais que parmi les manifestants, on a effectivement certains blessés. Je sais qu'un manifestant a, par exemple, a priori une jambe en très mauvais état, ça ne peut pas être dû à l'usage d'une grenade lacrymogène.
Donc, utiliser ces mots, c'est quand même le signe d'une grande défiance.
Il faut surtout que on essaye d'apaiser un peu les débats, puisque là, nous sommes dans une... On n'est pas... La gendarmerie n'est pas là pour agresser les manifestants. Elle est là pour faire en sorte de faire baisser les tensions. Et donc, on a vu les gendarmes qui tenaient une position, qui ne sont pas allés au contact.
Ils sont fatigués, les gendarmes ?
Les gendarmes ont été attaqués hier. Ouais. Mais nous sommes en mesure de tenir dans la durée. Le dispositif de 3200 gendarmes est justement là pour ça.
Un mot, s'il vous plaît, sur ce gendarme du GIGN de 35 ans, père de famille, qui a été tué hier en Guyane lors d'une opération contre des orpailleurs. C'est important aussi, dans ce contexte de tension, de rappeler que c'est ça aussi, les missions des gendarmes.
Alors, effectivement, j'ai une pensée pour la famille de ce gendarme, ses camarades, les gendarmes de Guyane, les gendarmes de France s'associent à cette douleur et... Cet événement rappelle effectivement que les gendarmes s'engagent de manière très forte sur l'ensemble du territoire. Au niveau de la Guyane, on est sur une mission spécifique qui est de la lutte contre l'orpaillage illégal. Et ce gendarme est décédé dans ces conditions-là. Il a fait l'objet de tirs nourris en mission de lutte finalement, de lutte contre les atteintes à l'environnement. Sur ce territoire.
Et Emmanuel Macron lui a rendu hommage et partagé son émotion. Merci colonel Marie-Laure Pezan. Je le rappelle, vous êtes porte-parole de la gendarmerie. Merci d'avoir été l'invité d'RMC ce matin.
Merci.
Il est 8h20.
À suivre dans la matinale week-end.
Il a tout juste 20 ans et il est déjà sur le toit du monde. Deux énormes records battus par Léon Marchand. C'est le nouveau grand nom à retenir de la natation française.
Et on en parle dans votre story sport. À tout de suite sur RMC.
RMC, la matinale week-end.
Soyez les bienvenus sur RMC, il est 8h21 très précisément. Bon dimanche à tous, on aime bien partager avec vous, vous le savez. Et dans une minute, dans un peu plus d'une minute, ça sera des rillettes qu'on va vous faire déguster avec l'histoire du jour.
J'ai déjà hâte, j'ai déjà faim. Mais d'abord,
la story sport.
Avec vous Morgane Maury, bonjour.
On s'intéresse ce matin, Morgane, au nageur français Léon Marchand. Il vit et s'entraîne aux États-Unis l'an prochain aux Jeux Olympiques à Paris.
Morgane, en ce moment, Marchand affole carrément les chronos.
Ouais, c'est a very good kid, disent les Américains. Bon, pour nous, on va dire que c'est un joyau, le joyau de la natation tricolore dans la piscine de Minneapolis, théâtre des championnats NCAA, ce sont les championnats universitaires américains. Le garçon de 20 ans, bouclette blonde, écrase la concurrence et les chronos. C'est simple, Mathieu Margot, presque à chaque fois qu'il plonge, ça fait record. 200 yards 4 nages, 400 yards 4 nages, 200 yards de brasse, victoire et record personnel amélioré. Marchand est déjà double champion du monde senior, c'était l'été dernier, prometteur, car il y a encore des mondiaux en juillet cette année, les JO l'an prochain, où il pourrait être la star française. Alors les championnats universitaires, c'est très important en Amérique, c'est diffusé en direct à la télé, chez la chaîne de sport ESPN. Alors imaginez un match de foot entre votre ancienne fac, Mathieu, je ne sais pas où vous êtes allé, à Jussieu ou à Lille, oui. Et ce serait diffusé sur Canal+, bon mais c'est impossible. Et quand Léon Marchand, ou plutôt Léon Marchand, bat un record, ça donne ça, c'était vendredi sur 400 yards 4 nages.
This is academic for Leon Marchand. It's going to be another iconic race for the Frenchman for Arizona. How big will it be? The NCAA mark is 331. Will he go 328? Oh, he does! 328.82 drops the NCAA record.
Véritable folie. Il faut dire que le garçon est très bien entouré, entouré, et il a de qui tenir.
Oui, c'est le fils de Céline Bonnet, championne de France de natation, et de Xavier Marchand, vice-champion du monde du 200 mètres 4 nages en 98. Alors, vous l'avez compris, la natation, c'est dans le sang chez les Marchands. Léon a été formé au Dauphin du TOEC, un grand club de Toulouse, avec Nicolas Castel. Et maintenant, Marchand nage aux États-Unis dans sa fac d'Arizona State pour le chaperonné Bob Bowman, 57 ans, l'homme qui a façonné Michael Phelps, le plus grand nageur de tous les temps, 23 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Marchand a quelque chose de rare en lui, sa polyvalence. Il est bon en 4 nages en papillon, mais aussi en brasse. La possibilité de s'aligner donc sur énormément de courses et donc de multiplier ses chances de médailles. À 488 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques, Léon Marchand nous vend beaucoup d'espoir.
Merci beaucoup Morgane Maury. Léon Marchand dans votre story ce matin, c'est le nouveau rendez-vous sport de la matinale week-end d'RMC, 8h24.
L'histoire du week-end.
C'est avec vous Stéphane Geneste, avec une autre forme de record, de quoi se redonner des forces après des longueurs en piscine et ouvrir l'appétit ce matin. Vous nous parlez de rillettes.
Absolument, je vous emmène au Mans puisque se tient jusqu'à ce soir le printemps de la rillette, avec un objectif, c'est de battre un record du monde et pas n'importe lequel, celui de la plus grande marmite de rillettes. Objectif, 1072 kilos de rillettes, c'est plus d'une tonne.
C'est un rêve.
Ah oui, absolument. Les Manceaux qui n'en sont pas à leur coup d'essai puisque l'année dernière, ils ont décroché le record du plus long sandwich de rillettes, plus de 100 mètres. Record entre-temps dérobé, ravi par les Mayennais, c'était en septembre dernier. Revanche donc, aujourd'hui, avec cette marmite, ça commence à aller dans 5 minutes précisément au marché des Jacobins, au Mans, jusqu'à 13h. Une marmite d'une tonne de rillettes, c'est 4000 pots, c'est beaucoup.
Ah oui, quand même.
Alors c'est festif, c'est folklore, c'est la promotion du savoir-faire, on aime bien ça ici, la promotion du terroir. Mais c'est aussi pour la bonne cause, puisque 3 pots seront vendus pour 10 euros. Le quatrième qui sera à chaque fois offert à une association qui vient en aide à des personnes dans le besoin. Les 1000 pots qui resteront seront aussi remis à l'épicerie solidaire étudiante du Mans. Alors voilà, Mathieu, Marguerite, les rillettes, c'est pas que des cochonneries,
oui.
C'est aussi un vecteur de solidarité.
Et la petite musique qui met l'ambiance. Allez, on va tous manger des rillettes en sortant de cette matinale, et le dimanche matin.
Je suis même que Stéphane Geneste va faire une seule chose à la sortie de cette matinale.
Boulangerie, rillettes.
Direction le Mans. Direction le Mans.
Un bon pot de rillettes.
D'ici 13h, j'y serai. Hein.
Tu nous en ramèneras ?
Absolument.
Merci beaucoup,
merci
Stéphane.
Stéphane.
Allez, restez bien avec nous. Il est bientôt 8h30.
Avec un nouveau journal à la une dans un instant. 5 blessés en urgence absolue, toujours hospitalisés ce matin au lendemain du déferlement de violence à Sainte-Soline. Manifestation anti-bassine.
Et puis juste après le journal, notre grand entretien avec un invité spécial ce matin, Vincent Lagaffe. Mais oui, il revient pas à la télé, en librairie. Je m'appelais Franck, c'est son autobiographie chez XO Éditions. Son histoire, celle d'un enfant adopté qu'il a choisi de raconter 60 ans plus tard. C'est absolument émouvant. Vincent Lagaffe, avec nous dans 10 minutes.
Vous restez avec nous sur RMC.
Bienvenue sur RMC, elle est agitée. C'est pas Peggy Broche, c'est votre météo du jour.
Ah ça c'est clair qu'elle est agitée, il n'y a que la Méditerranée et la Corse où il n'y aura pas de pluie, même si on peut attendre quelques gouttes cet après-midi sur l'ouest de la Corse. Mais sinon, partout ailleurs, on aura à un moment donné des averses, alors parfois soutenues, parfois orageuses. Le tout accompagné de vent, on a du vent sur l'ensemble du pays, ça souffle à l'intérieur des terres jusqu'à 80 km/h sur la façade atlantique, jusqu'à 100 km/h cet après-midi, 90 sur la Méditerranée. Et attention, parce que le vent va se renforcer jusqu'à 120 km/h cette nuit. Donc des pluies orageuses, mais également de la neige en montagne, hein, 2200 mètres sur tous les reliefs. Tout ça sous des températures qui sont logiquement en baisse, mais encore douces pour la saison. 6 à 8 au nord ce matin, jusqu'à 13 dans le sud. Les maximales entre 10 et 15 degrés et 17 à 22 près de la Méditerranée.
Merci Peggy.
La météo sur RMC avec Abri Sud. Abri de piscine, carport et pergola, 100% fabriqué en France.
Dimanche 26 mars, excellent réveil à vous.
Vous êtes sur RMC, il est 8h30. Tout de suite, c'est l'heure d'un nouveau journal avec vous, Maxime Gras, bonjour.
Bonjour Marguerite, bonjour à toutes et à tous. Des scènes de guérilla au milieu des champs à Sainte-Soline. La cause anti-bassine a été noyée hier par les émeutes. Un gouvernement inflexible sur la réforme des retraites. Après le président mercredi, c'est Olivier Véran qui confirme le cap ce matin. Seul contre tous, le français Fabio Quartararo débute sa quête de titre mondial en MotoGP aujourd'hui au Portugal.
Juste après le journal, on va se faire plaisir et s'émouvoir avec l'invité du grand entretien de la matinale week-end ce matin, Vincent Lagaffe.
Ça va être bien. Des bassines au chaos. Sainte-Soline a bien marqué les esprits, mais pas pour la cause défendue initialement.
La deuxième manifestation contre la méga-bassine à usage agricole a pris un tournant d'émeute hier dans les Deux-Sèvres. Des heurts qui se sont intensifiés dans l'après-midi entre militants et forces de l'ordre, faisant, selon le parquet, 35 blessés, dont 5 en urgence absolue. À Sainte-Soline, Marion Gauthier et Léna Marjac ont vécu ces scènes au milieu des militants.
C'est bien, on ne va pas faire des gros embouteillages sur la route pour permettre l'évacuation des blessés.
Des pieds boueux, des traits tirés, une foule nerveuse s'agite autour des tentes d'infirmerie. Pourtant, beaucoup de manifestants évoquent le calme du début de rassemblement, puis le choc.
On est content de rentrer en un seul morceau.
Valentin est venu du sud de la France pour s'opposer au projet de bassine.
Et, enfin, je ne m'attendais pas à sans partout, toutes les deux minutes entendre « médic, médic ». Je pense qu'on ne réalise pas encore ce qui s'est passé.
Une journée qui est particulièrement traumatisante et violente.
Mélanie est assise sur un banc, le regard dans le vide.
Moi, ce que je déplore, c'est le fait d'interdire la manifestation, fait monter une escalade de part et d'autre. Bah, on termine une journée en étant désespéré, pas écouté.
La gendarmerie assure que les assaillants ont fait usage de mortiers d'artifice, de cocktails Molotov. Elle dit avoir riposté avec 4000 grenades et des lanceurs de balles de défense.
On a eu plus de 3000 forces de l'ordre qui étaient là pour protéger un cratère vide.
S'insurge Adeline du collectif Bassine. Non merci.
Ça ne décourage pas, je pense que ça fait monter encore plus la colère.
Tant que les méga-bassines ne sont pas abandonnées, conclut-elle, on sera là pour continuer.
Marion Gauthier et Léna Marjac, invitées de la rédaction ce matin. Benjamin Haddad, député Renaissance, a pour sa part pointé du doigt le comportement des élus dans ce dossier Sainte-Soline.
Il y a bien un problème dans le comportement d'élus NUPES aujourd'hui qui se font les apôtres de la violence. Il y avait des députés de la NUPES hier à Sainte-Soline avec les casseurs, avec ceux qui venaient avec des battes de baseball, des couteaux pour encourager la violence. Vous avez la même chose, sorte de contextualisation de la violence qu'on a vue dans les rues de Paris ces derniers jours de la part d'élus de la NUPES.
Et côté gouvernement, on reste inflexible.
Amené à réagir sur le dossier de la réforme des retraites, notamment chez nos confrères du journal du dimanche, Olivier Véran réaffirme ce matin le cap politique, Martin Cadoret.
On ne se mettra pas d'accord sur les 64 ans avec les syndicats, acte ce matin le porte-parole du gouvernement qui déroule les éléments de langage déjà développés mercredi par Emmanuel Macron. Le mot d'ordre, c'est désormais d'attendre la validation de la réforme des retraites par le Conseil constitutionnel et de tendre la main aux syndicats sur d'autres sujets, comme les fin de carrière ou les reconversions, et de prévenir demain il y aura d'autres réformes, dont certaines impopulaires. Petit coup de brosse à reluire sur Laurent Berger, le leader de la CFDT, qui a, dit-il, la sagesse d'exclure la violence de la contestation sociale, mais pas de pas en avant significatif envers l'intersyndicale qui reste très mobilisée avec une nouvelle journée de manifestation ce mardi. Les Français qui se détournent toujours plus de la majorité présidentielle. Pour preuve, ce sondage toujours dans le journal du dimanche, si les élections législatives avaient lieu dimanche prochain, 26% des Français voteraient pour le Rassemblement National. C'était 21% en novembre dernier. À l'inverse, le parti de la majorité Renaissance passerait de 27 à 22% des voix.
Merci Martin.
Et les bureaux de vote ont ouvert il y a 30 minutes en Ariège.
Un premier tour de législatif partiel dans la première circonscription de l'Ariège suite à des irrégularités constatées lors de l'élection précédente. Un scrutin en forme d'indicateur dans un climat politique, vous l'avez entendu, très tendu par l'absence de majorité claire à l'Assemblée et en plein conflit social. L'opposition à gauche entre la députée NUPES sortante et une socialiste dissidente renforce l'incertitude et pourrait profiter au candidat RN, lequel avait été privé de second tour pour 8 voix seulement l'an dernier.
8h32, 14h34, les sports, Maxime. C'est reparti pour le MotoGP.
Le premier des 21 Grands Prix de la saison s'élancera à 15h depuis Portimao au Portugal avec deux Français sur la ligne de départ, Juan Zarco et Fabio Quartararo. Ce dernier champion du monde en 2021 et deuxième la saison dernière vise clairement le titre, mais il sera seul contre tous et notamment contre les Ducati, Valentin Jamin.
Oui, lors des derniers essais avant la saison, le pilote Yamaha a fini troisième, entouré de 7 motos Ducati dans le top 8. Mais le Niçois semble rassuré par la puissance de sa machine, principal défaut en 2022.
Le plus important, c'est la vitesse de pointe. Le reste, on a un petit peu plus de temps pour le gérer. Yamaha a fait un très gros travail. L'année dernière, c'était chiant. On avait tellement de difficultés sur la moto et voir autant de Ducati devant.
Le tricolore n'a presque pas coupé cet hiver entre vélo, motocross et musculation. Il veut le titre.
J'ai pas peur de le dire parce que c'est un objectif clair. Je m'entraîne pour une chose, c'est de gagner. On ne sait pas si on va le faire, mais en tout cas, il faut partir avec cette mentalité.
Il risque de se battre seul face à toutes ces Ducati et leurs pilotes, comme le champion du monde en titre, Pecco Bagnaia. Pas un souci pour son manager, Eric Mahé.
Si on perd, on sera tous déçus. Par contre, si on gagne avec une machine dont tout le monde sait qui a la certaine lacune, le mérite du pilote n'en est que plus grand.
Et cela tombe bien, Quartararo reste sur deux victoires à Portimao.
Sur le circuit de l'Algarve, Quartararo s'élancera malgré tout en 11e position, bien loin de la 64e pole réussie hier en carrière par l'Espagnol Marc Marquez.
Demain, l'équipe de France de football reprend du service.
Avec un déplacement en Irlande, Marguerite, pour les hommes de Didier Deschamps, à l'occasion du deuxième match de qualification à l'Euro 2024, les Bleus se sont contentés d'un entraînement léger hier en fin d'après-midi au Stade de France. C'était même récup pour les titulaires face aux Pays-Bas vendredi, dont Randal Kolo Muani, le joueur de Francfort, qui continue de marquer des points en attaque, Fabrice Hawkins.
Randal Kolo Muani a été dans tous les bons coups des Bleus. Impliqué sur les trois premiers buts, il a confirmé les espoirs placés en lui par Didier Deschamps.
Il est en pleine confiance, il a cette capacité de déplacement, de percussion, de dribble. Avec cette qualité aussi de vitesse, ça a été une très très bonne chose dans notre animation offensive.
Le joueur de 24 ans va vite, son profil est plus complet que celui d'Olivier Giroud, son principal concurrent. Sur le troisième but, il a intelligemment laissé filer la passe d'Aurélien Tchouaméni pour Kylian Mbappé. Randal Kolo Muani offre beaucoup de solutions, comme l'explique Tchouaméni justement.
Il a été intéressant, on a pu le trouver entre les lignes, aussi en appui. Et puis on sait que c'est un joueur de profondeur, donc dès qu'on est un petit peu en difficulté, on sait qu'on peut jouer un peu plus long pour le trouver.
Déjà buteur en demi-finale lors de la Coupe du Monde, Randal Kolo Muani peut s'affirmer en tant que titulaire s'il marque contre l'Irlande.
Hier soir, l'Espagne a dominé la Norvège pour son premier match depuis le fiasco du Mondial, emmené par Luis de la Fuente, nouveau sélectionneur, mais guidé par les mêmes principes de jeu. La Roja s'est imposée 3-0 dans ce premier match de qualification à l'Euro, avec notamment un doublé en fin de match de Rossellou, attaquant de l'Espagnol Barcelone, qui fêtait sa première sélection à 32 ans.
Et
oui.
Et puis nous vivons un week-end de derby en rugby qui tient vraiment toutes ses promesses, en tout cas jusqu'à présent.
Et du spectacle pour cette 21e journée de top 14, avec en gros titre la balade rochelaise à Bordeaux, dans un duel de l'Ouest qui avait été délocalisé pour l'occasion au Matmut Atlantique. Les champions d'Europe ont étouffé l'UBB, se payant même le luxe de prendre un point de bonus offensif. 36-6, le score final. Plus que jamais, mais dauphins de Toulouse, les Maritimes valident ainsi leurs ambitions. Le tel-honneur Pierre Bourgarit au micro de Nicolas Paolorsi.
C'est une belle performance, on va pas se le cacher. On savait que, vu l'état actuel du classement avant le match, on savait que si on avait l'intention et l'envie de vouloir être dans le top 2, ce qui est notre intention cette saison, ça serait bien de passer par une victoire ici. Alors si on avait gagné 1-0, on aurait pu gagner 1-0, on aurait été tout aussi contents.
Ce soir, c'est un autre derby francilien, celui-là qui va clore cette 21e journée. Il met aux prises le Stade français au Racing 92, coup d'envoi à 21h05 dans l'after de Thibaut Giangrande.
Merci beaucoup Maxime, c'était le journal de Maxime Gras. Vous avez joué toute la matinée et vous avez gagné. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez gagné un superbe séjour. Et c'est qui la grande gagnante de ce séjour en Thalasso, Mathieu ?
Le tirage au sort tombe dans le Val-de-Marne ce matin, à Fontenay-sous-Bois précisément. Chez Malika, ma chère Malika, vous nous entendez bien sur RMC. Les massages, la thalasso, ça part chez vous et c'est pour vous, on en est très heureux. Merci Malika d'avoir joué avec nous.
Bravo Malika.
Prenez sur RMC avec les thalasso Valdis Resort. Prenez le temps de penser à vous et retrouvez votre vitalité dans l'une des 4 thalasso Valdis Resort, hôtel Thalasso et Spa.
Allez, restez bien avec nous, on va continuer de se faire plaisir ce matin. Vous vous souvenez du Big Deal sur TF1, vous connaissez SOS Garage sur RMC Découverte. C'est Vincent Lagaffe que vous connaissez à la télé, mais connaissez-vous sa vie ? Il publie son autobiographie ce matin, ça s'appelle « Je m'appelais Franck, l'histoire d'un enfant adopté ».
Il est avec nous dans 2 minutes, Vincent Lagaffe, à tout de suite.
RMC, la matinale week-end.
Vous êtes sur RMC, il est 8h42 très précisément, tout de suite le grand entretien.
L'entretien RMC.
Avec un invité spécial ce matin, Mathieu, vous recevez Vincent Lagaffe.
Et quel plaisir, il est là. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour Marguerite.
Bonjour.
On a le plaisir de recevoir un collègue, j'allais dire presque un voisin de bureau ou voisin d'établi. Vincent Lagaffe sur RMC Découverte, SOS Garage. Vous venez à la rescousse des garagistes, des mécaniciens. D'ailleurs, on le sait peu, vous avez votre BEP de dieseliste et un CAP soudeur, c'est
ouais,
ça Vincent?
C'est ça.
Mais vous venez ce matin pour nous dire que vous ne vous appelez pas Vincent Lagaffe. Vous vous appeliez Franck. Je m'appelais Franck. C'est d'ailleurs le titre de votre autobiographie aux éditions XO. L'histoire de l'enfant que vous étiez. L'enfant placé à l'assistance publique à l'âge de 2-3 ans.
Ah non, à l'âge de 3 mois.
À l'âge de 3 mois, jusqu'à 2-3 ans.
Autrefois, l'adoption était un poil longue. Donc, on pouvait décider et connaître et correspondre avec l'enfant qu'on allait l'adopter, mais ça pouvait prendre jusqu'à 2 ans et demi pour l'avoir en son foyer.
Petit garçon qui s'appelait donc Franck, avant de devenir Vincent. Pourquoi raconter cette histoire aujourd'hui ?
Parce que j'éprouve un amour fou pour mon fils, que j'avais envie de boucler une boucle. Et puis quand j'ai su, j'ai eu un drame qui maintenant est terminé, mais c'est vrai que c'était très très difficile pour moi de ne pas savoir d'où je venais. Et mon grand drame et ma psychose et la paranoïa qui était en moi, c'était de me dire, pourvu que je ne sois pas fils d'un viol ou d'un inceste. Et ma grande grande crainte, c'était d'apprendre qu'un jour mon père était mon grand-père. Et ça, je pense que je l'aurais très mal vécu. Quand j'ai su la vérité, j'ai eu la chance de rencontrer cette femme, Courage.
Votre mère biologique,
ma mère biologique, oui. Je me suis dit, bon, voilà, maintenant, j'ai le temps.
Accident de moto, c'était il y a tout pile un an.
Il y a 14 mois, un accident qui s'est mal passé à la reconstruction, mais qui voit enfin le bout du tunnel.
On l'entend, vous aviez ce besoin de savoir, qui est peut-être la chose la plus partagée par tous les enfants qui ont été adoptés. Vous l'avez su comment? Comment on vous a annoncé, Franck, Vincent, tu es un enfant adopté?
Je sais plus, je peux plus vous dire exactement. Tout ce dont je me souviens, c'est que on était à Aix-en-Provence et mon père et ma mère m'ont pris un dimanche après-midi dans la salle à manger en disant, Vincent, faut qu'on te parle. Voilà, ils m'ont expliqué en deux mots, parce que vraiment avec mon père c'était carré, c'était clair. Voilà, nous sommes tes parents, mais nous t'avons adopté. Donc j'étais un peu perdu parce que ça veut dire quoi, etc. Donc ils m'ont expliqué que c'est pas eux qui m'avaient fait, mais qu'ils m'avaient adopté et que de ce fait ils devenaient mes parents.
Donc, à l'époque, déjà, il y a quelque chose en vous qui s'est brisé, qui s'est cassé.
Non. C'était de toute façon, je me suis jamais senti à ma place dans cette famille. Je me suis jamais. J'ai été très bien élevé. J'ai reçu une éducation tout à fait correcte, parfois un peu virile, mais j'ai jamais été un enfant battu, j'ai jamais été un enfant martyrisé, j'ai jamais eu faim, j'ai jamais eu froid.
Mais c'est vrai que quand on vous lit, on ne sent pas non plus d'amour filial avec cette famille adoptive. Vous êtes reconnaissant, mais vous avez parfois des mots assez durs. Oui, vous dites, je me sentais comme un bibelot, comme un trophée qu'on exhibe devant les voisins.
Devant les amis, c'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas un souvenir de fou rire avec mon père. Et j'ai surtout pas voulu reproduire ça avec mon fils. Et avec mon fils, on n'a même plus un rapport de père et fils. On est deux potes. On est peut-être même un peu trop potes.
Robin,
oui.
Relation fusionnelle. C'est parce que vous avez vécu cette histoire que vous avez une telle relation avec votre fils aujourd'hui, Vincent Lagaffe ?
Certainement. J'ai voulu lui donner tout ce que je n'ai pas eu et ce que j'aurais voulu avoir. Et peut-être plus si affinité. Donc,
vous parliez de votre maman biologique, Lucienne. Vous avez donc réussi à remonter jusqu'à elle. Vous l'avez rencontrée une seule fois.
Une seule fois.
Vous êtes parlé 6 heures.
6 heures.
Qu'est-ce qu'on se dit presque 60 ans plus tard?
On ne dit pas grand-chose, on écoute. Moi, j'avais besoin de savoir ce qui s'était passé. Donc, Nathalie, ma compagne, disait souvent c'est pas tellement des problèmes de naissance ou d'éducation que tu as eu, c'est certainement avant la naissance. Et il est vrai, pas mal de psy me l'ont confirmé. L'équilibre d'un enfant est souvent en rapport avec les 18 mois qui ont précédé sa conception. Mmh. Donc son éducation, c'est une chose, mais c'est vrai, et je l'explique bien, j'espère être...
Et ça, vous l'avez compris en échangeant avec Lucienne ?
Oui, c'est là où je me suis dit, mais ok, d'accord, toute cette haine, toute cette rage, toute cette colère que j'ai en moi, elle vient de là.
D'avant même la conception.
Oui, parce que quand on fait un gamin et qu'on est bien dans sa peau, que tout le monde, tout est beau, tout est va, on va faire un gamin équilibré, gentil, ouvert à la vie. Si vous faites un gamin dans des conditions dramatiques et que rien ne se passe comme vous voulez, ouais, forcément vous faites un rebelle.
En échangeant avec elle, vous découvrez aussi que vous avez des demi-frères, des demi-sœurs, et vous faites une promesse à Lucienne, votre maman, c'est de ne pas les rencontrer
de son vivant.
De son vivant. Pourquoi ?
Pourquoi j'ai fait cette promesse ? Parce qu'elle me l'a demandé.
Elle ne souhaite pas que ses autres enfants connaissent votre
existence.
Pourquoi
elle ne veut pas que ça se sache ? Ça, c'est son problème, c'est sa vie, et je n'irai pas donner mon avis là-dessus. Je l'ai rencontrée. Il y a eu un choc, et puis quand je lui ai dit au téléphone, je suis né le 30 octobre 59, je m'appelais Franck, là elle a réalisé qu'une demi-heure avant, elle m'avait envoyé promener sur de mauvaises bases. Et c'est elle qui a dit, venez cet après-midi, on se rencontre sur tel parking, je vais vous parler, j'en ai besoin. Chose à laquelle j'ai dit, et moi donc.
On l'entend depuis le début de cet entretien, Vincent Lagaffe. On le comprend aussi en vous lisant. Je m'appelais Franck aux éditions XO. Ça a fait de vous cet homme entier, finalement. Celui qui sait ce qu'il veut, qui prend ce métier du show business, de la télévision pour ce qu'il est, pas pour briller. Vous portez quel regard aujourd'hui, en 2023, sur la télévision ? Vous dites on peut pas se faire d'amis dans ce métier.
Ah si ! Mais est-ce que ces amis sont des amis ? Moi, je fais la grande différence entre ami, pote et frérot. Voilà, un pote, c'est quelqu'un que tu connais, tu bois l'apéro, tu joues au ballon, etc. Un ami, c'est un mec sur qui tu peux compter. Un frérot, tu donnes un rein pour lui. Voilà, et dans ce métier, j'ai deux tonnes de potes.
Il y a peu de frérots et...
J'ai quelques amis et j'ai trois frérots.
On va entendre des génériques, Vincent Lagaffe. Vous allez me dire à chaque fois en deux, trois mots ce qu'il vous évoque, ces génériques, aujourd'hui, là, à la minute où on se parle.
Ça m'évoque plein de choses.
Fort Boyard,
ça m'évoque mon enfance parce que mon père m'emmenait en vacances dans l'île de Léron et comme dans le
film, vous voyez au loin, ce
comme
fort.
Dans le film Oléron Liberté, Liberté Oléron, c'est vrai que on avait envie d'aller à l'aventure et de tourner autour du fort.
Alors c'est la consécration d'avoir eu votre personnage de méga gars
oui,
dans Fort
absolument.
Boyard en 2018-2019.
Entre les vacances et l'émission d'ALP, il y a eu tous les championnats du monde qui se passaient à Oléron où on allait tourner autour de Fort Boyard. Donc ça a été une première chose. Il y a eu la visite du fort. À l'époque, je parle de ça, ça doit être dans les années 65-70, venait de se tourner le film avec Ventura et Delon, Les Aventuriers, et on était rentré dans le fort d'une manière totalement illégale, donc ça a été une grosse aventure. Mais ouais, avoir été le personnage de Méga Gaffe qui part à l'assaut du fort, ouais, ça a été un grand kiff.
Allez, un deuxième. De 2009 à 2015. Le juste prix, présenté par Vincent Lagaffe.
Ben, y a eu une certaine fierté de passer derrière Patrick Roy, Morin, Rizzoli, etc. Ça a été la continuité d'une grande décennie de déconnades. Parce que le Big Deal auparavant, j'ai jamais bossé, j'ai jamais travaillé sur le Big Deal. J'y suis allé m'amuser.
Bon, alors pour le coup, pas du tout la même ambiance.
Ouvrir un garage, cela peut vite tourner au cauchemar.
Ça, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, nos copains d'RMC Découverte.
SOS Garage. C'est une jolie aventure. C'est une aventure, encore une fois, qui me plaît bien parce qu'il y a un esprit d'équipe et on rend service. Et d'une manière générale, dans toutes les émissions que j'ai animées, à part La Classe où c'était juste se faire connaître, mais Laura Lappel, on faisait gagner du pognon, le Big Deal, on dépannait les gens qui avaient besoin de changer leur frigo, le Juste Prix, il y avait pas mal de cadeaux, et là, SOS Garage, encore une fois, on rend service.
Et ça va revenir bientôt, hein, bien sûr, sur une nouvelle saison.
C'était un peu en fonction de ma reconstruction, et là, on reprend les tournages mai-juin, donc très vite, on repart sur SOS Garage.
Moi, je suis un peu nostalgique du Big Deal, je dois vous l'avouer, et je suis pas le seul. Tiens, Jonathan nous rejoint au 32-16. Jonathan qui nous écoute sur RMC depuis Chambéry. Bonjour Jonathan.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Bonjour Jonathan.
Qu'est-ce que vous vouliez dire à Vincent Lagaffe ?
Qui me doit du pognon.
Exactement. Non, mais moi, ça fait partie des Madeleine de Proust qu'on a. Moi, j'ai 42 ans. C'est le genre de clown qu'on connaissait, et des gens bienveillants qu'on a vus à la télévision, qui pouvaient faire... Enfin, qui a pu faire plein de choses à la télévision à des moments où
on se posait moins les questions sur le fond, on essayait moins de cérébraliser toutes les choses et on était peut-être pas plus libre parce que ça faisait pas mal de vieux cons, mais après, je dirais, voilà, c'était des époques où c'était de l'entertainment, du vrai, quoi, et puis voilà, on s'amusait, on prenait plaisir à regarder les bêtises de la gaffe à la télévision, depuis la classe.
Vous êtes nostalgique, Jonathan, je le sens.
Vous l'écrivez, Vincent,
ouais,
la gaffe, d'ailleurs.
On en a parlé. Après, aujourd'hui, on cherche les poux, même si on n'en trouvera peut-être pas trop sur la tête de M. Lagaffe, des poux, mais on cherche des poux pour n'importe quoi, avec les polémiques sur lesquelles on revient.
C'est-à-dire que beaucoup de gens ont besoin d'exister, et quand on n'a pas de talent, on ne fait que critiquer ce que les autres font.
Vincent Lagaffe, c'est ce que vous écrivez à la conclusion de votre livre. J'ai traversé le temps en ayant l'impression de vivre à chaque fois
la dernière décennie de quelque chose, et là, j'ai l'impression qu'on vit les 10 dernières années de liberté.
Pourquoi vous dites ça?
Mais parce que tu peux plus parler librement, tu peux plus dire les choses. Il y a toujours une bande d'intellos, de pseudo-intellos qui sont en mal de reconnaissance, en mal de vie, en mal de je ne sais quoi, et qui pensent pouvoir être reconnus ou entendus ou vus en ne faisant que critiquer ce que les autres font. Donc il y a un moment, t'as envie de lui dire, mais garçon, au lieu de chier sur les copains, fais ton truc.
Jonathan nous disait dans son message, aujourd'hui, la Zoubida, ce serait plus possible. C'est vrai ou pas? La Zoubida.
Elle a été faite en 1990, à une époque où, moi je me souviens de Michel Leb, je me souviens des Inconnus, je me souviens de Pierre Péchin. Tout ça, ça brocardait avec des accents, avec des vannes, etc. Au deuxième ou au troisième degré, on avait Guy Bedos et Pierre Desbroches. Tout ça, ça passait très bien. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des mots qu'il ne faut plus prononcer.
Vous ne reconnaissez plus votre France?
Ah non, je ne reconnais plus du tout le côté culturel français. C'est-à-dire qu'il y a des mots, si tu les dis, tu passes pour un je ne sais quoi. Donc, ouais, c'est parfois un peu lourd. Le soleil se lève à la même heure, les saisons sont à peu près les mêmes et le niveau de mer n'a pas beaucoup changé.
Je vous propose qu'on se quitte sur une autre chanson. Et c'est celle qu'on peut lire quand on referme votre livre. C'est quelques paroles de Christophe Maé.
Ouais, j'y suis très sensible.
Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte, comme un con dans son bain, essayant de le noyer, mais il flotte. Ce putain de chagrin, alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain.
Complètement.
Il est où le
pourquoi ce choix?
D'abord, Christophe Maé est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que quand j'ai eu besoin de lui, il était là. J'ai eu besoin de lui, comme je l'ai écrit dans le bouquin, et il est venu tout de suite. Et puis, c'est un mec qui joue devant 5000 personnes ou 50 personnes, il va faire le même spectacle, il va se donner intégralement. Et puis je me retrouve dans ses chansons, je me retrouve dans ses paroles. C'est un mec du Sud, c'est un mec de Manosque, c'est un mec qui a fait la rue, c'est un mec qui a lui aussi distribué quelques gifs pour pouvoir s'en sortir. Voilà, c'est un couillu et j'aime bien ces mecs qui ne changent pas leur trajectoire et qui restent comme ils sont. J'adore Florent Pagny parce que c'est le même, avec tout ce qu'il a pris dans la gueule. Il n'a pas bougé, il n'a pas changé d'un iota. Il y a quelques mecs que j'aime comme ça.
Les couillus. Merci Vincent Lagaffe.
Avec grand plaisir. Et si vous permettez, je vais dédicacer le livre pour Jonathan.
Ah bah avec grand plaisir.
Voilà.
On envoie Je m'appelais Franck aux éditions XO, dédicacé par Vincent Lagaffe à Jonathan qui nous a rejoint au 32-16. Vous en avez peut-être un deuxième d'ailleurs.
Oui, je vais vous en faire un autre. Et puis si vous faites un jeu, ça me fera plaisir de l'offrir.
Et puis on se retrouve très bientôt sur RMC Découverte avec SOS Garage et puis peut-être
en 2024 sur Story.
Ouais, sur RMC Story.
Ça dépendra de notre taulier commun, Stéphane Salé de Chou.
Merci encore Vincent.
Merci à vous.
C'était un vrai plaisir. Allez, il est bientôt 9h sur RMC.
L'heure de retrouver vos grandes gueules du sport. Bonjour Jean-Christophe Drouet.
Bonjour Marguerite, bonjour Mathieu, vous allez bien?
Oh, ça va.
Tout va très bien au programme aujourd'hui.
Au programme aujourd'hui, très beau programme avec nos grandes gueules Pascal Duprat, Renaud Longuèvre, Cyril Marais, Christophe Cessieux. On vous donnera toutes les dernières nouvelles de l'équipe de France qui va s'envoler pour l'Irlande. Deuxième match des qualifications. Demain, notre débat, Kolo Muani, numéro 9 de cette équipe de France, vendredi soir, vient-il de tuer le match des numéros 9 en bleu? On parlera également des Jeux Olympiques de Fabio Quartararo et quelques petites surprises dans cette émission.
Allez, 9h midi les GG, en attendant votre météo, votre info, à tout de suite.